une mission transpartisane resserrée. La délégation a été rendue publique. Elle se rendra à Paris la semaine prochaine pour évoquer le budget de la Nouvelle-Calédonie. Sébastien Lecornu promet de sortir de terre les projets prévus à Mayotte. La reconstruction après le passage du cyclone Chido ne va pas assez vite. Sur 4 milliards d'euros de crédit, seuls 12% des engagements ont été dépensés. Le MEDEF veut peser dans la campagne présidentielle de 2027. En ouverture de la rencontre des entrepreneurs de France, le président du MEDEF, Patrick Martin, a appelé les candidats à faire preuve de courage. À l'étranger, les secours s'affairent à la frontière entre le Népal et le Tibet. Au moins 160 personnes sont mortes et plusieurs centaines de disparus après une coulée de boue. Le sport est Lyon qui ne jouera pas la Ligue des Champions. Les Lyonnais se sont inclinés sur leur pelouse contre Fenerbahçe 2-1 en barrage retour de qualification. Les deux équipes avaient fait un match nul, un but partout à l'aller. Bonjour à tous et bienvenue dans Infomag, votre rendez-vous info détente de la mi-journée pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, en métropole et dans le monde. Avant de développer tous ces titres qui font l'actualité ce midi, un coup d'œil au jeudi de l'économie, Radio Rythme Bleu. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Nicolas.
Et vous consacrez cette émission cette semaine à l'incubateur Impulseo en province sud.
Oui, nous parlerons plus largement de la relance économique au menu de ce jeudi de l'économie avec effectivement les initiatives qui sont soutenues par Impulseo. Impulseo, c'est l'incubateur accélérateur de projets innovants en province sud. Et pour en parler, nous serons en compagnie de Charlène Gauthier, c'est la directrice adjointe de la direction du développement économique et du tourisme de la province sud, mais aussi de Valériane Henry, qui est conseillère en innovation chez Impulseo, et enfin de William Danger, un chef d'entreprise qui est accompagné par le dispositif Impulseo. On se retrouve donc juste après votre journal avec ses invités pour parler de ce dispositif d'incubateur accélérateur de projets innovants en province sud.
Et justement, concernant la relance de l'économie, la CCI organise un rendez-vous de l'économie ce soir. Un événement destiné aux entreprises calédoniennes pour évoquer le plan d'investissement de l'État autour de ses 104 projets. Alors, quelles sont les opportunités pour les sociétés calédoniennes? Les dirigeants pourront rencontrer un membre de la mission interministérielle, mais aussi des donneurs d'ordre des collectivités. Je le disais en titre, c'est une mission transpartisane resserrée qui va se rendre à Paris du 31 août au 5 septembre pour évoquer l'aide financière de l'État pour finir l'année 2026 et préparer le budget 2027. Pour le gouvernement, la mission sera composée du président Mila Kouloutou-Koumouli, de Christopher Gigès en charge de l'économie et de Billy Forrest en charge du secteur coutumier. Le congrès sera représenté par sa présidente Virginie Rufnac, par la présidente de la province sud Sonia Baquès et par Xavier Rossard, élu du Rassemblement. Trois parlementaires participeront également à cette mission, les députés Nicolas Metzdorf et Emmanuel Chibaou et le sénateur Georges Naturel. Tous les partis seront donc représentés dans cette mission transpartisane, à l'exception de l'UCFLNKS, car le député Chibaou y participe uniquement sous sa casquette de parlementaire. Toujours dans l'actualité sur le territoire du côté des transports, alors que certains menacent de bloquer de nouveau l'aérodrome de Wanaham à Lifou la semaine prochaine, l'État déclare dans un communiqué qu'il veillera au maintien de la continuité des liaisons aériennes entre Lille et la Grande Terre, Léo Fichou.
Oui, le haut-commissaire rappelle que c'est le protocole d'accord signé le 26 juin dernier entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la grande chefferie du Wedge qui a permis la réouverture des vols vers Lifou. Il appelle donc à la responsabilité et au respect de cet engagement. À défaut, le haut-commissaire fera valoir sa compétence en matière de sûreté, de sécurité aéroportuaire et aérienne. Toute infraction d'entrave à la circulation aérienne et d'atteinte à la sûreté sera également signalée au procureur de la République, comme le prévoit le Code des transports. L'État demande enfin aux partenaires concernés, AUVA et MARE, à trouver une solution pour ouvrir les aérodromes. Dès lors qu'un protocole d'accord sera trouvé, l'État se tiendra à leur côté pour assurer la sécurité et la sûreté aéroportuaire et aérienne, peut-on lire dans ce communiqué. J'ajoute que le grand chef du Wedge s'était également exprimé sur le sujet par la voix d'un communiqué datant du 24 août. Jean-Baptiste Siazé a démenti son soutien à une éventuelle action de blocage de l'aérodrome de Wanaham. Il a rappelé, selon ses mots, qu'aucune décision engageant son royaume ne peut être présentée comme ayant reçu son accord. Il déclare encore qu'aucune fermeture de l'aérodrome n'a été autorisée. Fin de citation.
En bref, la municipalité du Mont-d'Or organise cet après-midi le premier comité consultatif de la deuxième route du Mont d'Or, une réunion qui se déroulera à partir de 15h à la salle d'honneur de la mairie de Boulary. Cette séance sera consacrée à la présentation des études qui ont été réalisées par la province sud sur le viaduc, ainsi que sur les études qui vont être menées prochainement, un événement qui n'est pas ouvert au public.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Approuvez-vous la décision du haut-commissaire de garantir la continuité du trafic aérien et la libre circulation de ses usagers au départ et à destination de l'IFU? Si vous l'approuvez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier, 81% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent craindre de nombreux feux de forêt en Nouvelle-Calédonie dans les prochains mois en raison des conditions météo et de l'annonce du phénomène El Niño. Ils sont donc 19% à ne pas partager cette opinion. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Plus de 360 interventions en 2 semaines. Les pompiers calédoniens n'ont pas chômé en métropole. Un détachement de 31 sapeurs-pompiers est parti en renfort dans l'Aude pour faire face aux importants feux de forêt. Nous avons fait le bilan de cette mission avec le commandant Anthony Guépy, chef de colonne à la direction des services d'incendie et de secours de la ville de Nouméa. Il était notre invité ce matin à 7h30 et il a confirmé que le travail des pompiers calédoniens avait été apprécié.
On a montré une belle image, que ce soit techniquement ou humainement. Notre sérieux, notre professionnalisme, on n'a jamais rechigné, on a toujours été les premiers à aller au feu, à gratter, à tirer les tuyaux. Ça leur a fait plaisir. C'est la particularité de la Nouvelle-Calédonie d'être isolée. On sait qu'on peut compter sur nous et sur nous, ou alors sur des renforts nationaux, mais un thé plus plusieurs jours. Et cette résilience que l'on a toujours eue, on fait des interventions qui durent 4-5 jours, des interventions, on a vu à Bélep 250 hectares avec 10 pompiers. Vous exportez ça dans l'Hexagone, ils vous diront que c'est impossible. Et en fait, on a cette habitude de créer cette cohésion entre nous, d'être à l'écoute des uns des autres, quel que soit le grade, et de veiller les uns sur les autres. Et forcément, ça crée, quand on parle d'esprit de famille chez les pompiers, en Nouvelle-Calédonie, on l'a et on sait le maintenir.
Et le commandant Anthony Guépy est fier des pompiers qui se sont engagés.
Je suis très fier des personnes qui m'ont accompagné et je leur ai dit, quand on est arrivé à Tantouta, on a été accueilli par les familles et les pompiers de la sécurité civile et du haut-commissariat. À la fin, on s'est réunis et je leur ai dit que voilà, tous ceux qui étaient autour de moi, je repars demain avec eux sans problème. Je suis très fier de ce qu'ils ont montré opérationnellement, je suis très fier de ce qu'ils ont montré humainement et je pense que leur famille et leur autorité d'emploi peuvent être fiers d'eux aussi.
Le commandant Anthony Guépy espère que ce type de déplacement sera reconduit en cas de besoin. L'heure est donc au retour d'expérience.
Il va falloir que je rédige quelque chose pour préparer si des fois ça doit se reproduire. Et j'espère que ça se reproduira parce que dans le département, ils sont très contents de ce que l'on a réalisé. Et il faut qu'on prépare le prochain chef de détachement à tout ce qui peut lui arriver, à tout ce que j'ai vécu. Et il faut aussi qu'on prépare ceux qui vont se positionner comme volontaires pour y aller avec, on a récupéré des photos, des vidéos de ce que l'on a fait et de comment ça se déroule. Parce que la formation, c'est une chose, mais pouvoir parler de l'expérience que l'on a vécue et pouvoir la transmettre, je pense que c'est important pour l'avenir.
Et je rappelle que cette mission de 2 semaines en métropole a concerné des pompiers communaux, mais aussi de la DSCGR. Une interview du commandant Anthony Guépy à retrouver sur notre site internet rrb.nc. Il est 11h39, vous écoutez Radio Rythme Bleu. Merci d'être avec nous. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir l'actualité en métropole et dans le monde. Et on reviendra tout d'abord sur ce déplacement de Sébastien Lecornu à Mayotte. Il parle reconstruction là aussi.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. Avec Canal+, laissez-vous tenter par les formules premium à petit prix. Jusqu'au 31 octobre, vos chaînes et plateformes préférées sont au tarif unique de 5000 francs par mois pendant 2 ans. Canal+, HBO Max, OCS, Apple TV+, Paramount+, et toute la Ligue des Champions, le Top 14 et la Formule 1. Où vous voulez, grâce à votre application Canal+, pour seulement 5000 francs par mois pendant 2 ans. Jusqu'au 31 octobre pour tout nouvel abonnement de 24 mois. Modalité au 26 53 30 en Canal+ Store ou sur canalplus-calédonie.com.
Vous cherchez un terrain proche de Nouméa, à Karikaté? On a ce qu'il vous faut chez CK Immobilier. Venez découvrir nos terrains viabilisés à partir de 6 millions à Karikaté 2 lors de notre journée portes ouvertes le samedi 29 août de 8h30 à 14h30. L'équipe CK Immobilier et nos partenaires banques et constructeurs vous attendent pour vous accompagner à visiter et imaginer votre futur chez vous. À samedi, plus d'infos Facebook.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Nicolas Legrand.
Sébastien Lecornu est donc à Mayotte. Jusqu'à demain, le Premier ministre vient observer la reconstruction très lente de l'archipel de l'océan Indien. Et ce, 18 mois après le cyclone dévastateur Chido qui avait balayé l'île. Le chef du gouvernement entend aussi trouver des solutions pour contenir les flux migratoires sur cet archipel où un habitant sur deux n'est pas né sur place.
Nous allons assumer une militarisation plus forte de la lutte contre l'immigration clandestine et dans le respect de notre souveraineté. On a trop d'angles morts autour de l'archipel. On a trop de difficultés de détection. Et paradoxalement, alors que nos moyens en matière d'interception ont augmenté et vont continuer d'augmenter, c'est parfois les sujets purement de détection et de renseignement qui font encore défaut.
Sébastien Lecornu a fait des annonces comme par exemple de nouveaux moyens militaires pour surveiller et protéger les côtes. La France va notamment déployer un détachement de la Légion étrangère et porter de 9 à 13 le nombre de navires intercepteurs d'ici 2028. Mais Sébastien Lecornu veut aussi agir en amont. L'aide au développement pourrait être conditionnée à la coopération des Comores et de plusieurs pays africains contre les passeurs et pour reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière. Concernant maintenant le passage du cyclone Chido sur Mayotte en décembre 2024, Sébastien Lecornu promet de sortir de terre les projets prévus. Sur 4 milliards d'euros de crédit, seuls 12% des engagements votés ont été pour l'instant dépensés. Dans l'actualité économique, c'est l'événement de rentrée du MEDEF, la rencontre des entrepreneurs de France, la REF pour les intimes. Et cette REF, justement, a débuté aujourd'hui sous le thème du courage. Et cela déterminera, évidemment, et en clôture eh bien, du débat, il y aura notamment un débat entre les 7 principaux candidats à la présidentielle. À 8 mois du premier tour de cette élection, le patronat souhaite peser dans les discussions. C'était l'un des grands thèmes du discours de Patrick Martin, le patron du MEDEF.
Nous, entrepreneurs, voulons un pays apaisé. Notre pays a besoin d'un cap, d'une stratégie. Il est minuit moins le quart. Alors, foncez, foncez, mesdames et messieurs les politiques, soyez courageux.
Les chefs d'entreprise qui réclament avant tout un cap clair et la fin de l'instabilité permanente.
Pour ce qui concerne les TPE, PME, PMI, il y a un vrai climat assez anxiogène. Les défaillances d'entreprises sont parties à la hausse. La crise internationale, les craintes pour l'avenir, le renchérissement des matières premières, tout ça fait que le climat économique français n'est pas bon.
Écoutez, un changement de cap, un gros changement de cap, parce que depuis 2017, on vit des politiques anti-immobilier. Hein. En tout cas, on le vit sur le terrain, les Français le vivent aussi. Dès la rentrée, nous sommes bombardés d'appels de parents, d'élèves et d'étudiants qui ne trouvent pas de logement partout sur tous les territoires.
Et je rappelle que le président du MEDEF-NC, Bertrand Courte, participe à cet événement à Paris. En bref, un deuxième plan social dans le groupe Sodexo en 6 ans. Le groupe français de restauration collective va supprimer près de 1100 postes en France. Cela représente près de 5% des effectifs. Un plan de sauvegarde de l'emploi sera précédé d'une phase de départ volontaire. Très peu d'informations ce midi sur ce qui s'est passé à Caen ce matin. Un chauffard a volontairement foncé dans la foule, faisant 1 mort et 10 blessés. Ce ressortissant russe de 26 ans a été interpellé. Il ne s'agirait pas d'un acte terroriste. Une enquête a été ouverte du chef d'assassinat et de violence volontaire avec armes et a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée du Calvados. Un acte de violence insupportable, c'est la réaction du maire de Paris, Emmanuel Grégoire, sur X, après l'agression au couteau d'un cycliste. Cela s'est passé hier dans la capitale. Le jeune homme a été touché à la gorge et tout est parti en fait d'une altercation avec un automobiliste, Wilfried de Villers.
Oui, dans le 9e arrondissement de Paris, à quelques pas de l'église de la Madeleine, le cycliste de 24 ans s'engage dans une rue étroite quand il est soudain percuté par une camionnette professionnelle. Son vélo électrique est endommagé. Une dispute éclate avec le conducteur qui refuse de rédiger un constat. Les deux hommes en viennent aux mains. Le cycliste porte plusieurs coups de poing à l'automobiliste à travers la fenêtre. C'est à ce moment-là que ce dernier sort un couteau et poignarde le cycliste à la gorge avant de prendre la fuite. Blessée au sol, la victime est rapidement transportée. Portée aux urgences entre la vie et la mort. Elle sortira finalement de l'hôpital en fin de journée. Quant au conducteur, rapidement identifié, il est interpellé moins de 5 heures plus tard. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte, confiée à la police judiciaire. C'est dans ce même secteur de la Madeleine qu'a été tué Paul Varry en 2024, un autre cycliste écrasé par un SUV après une altercation avec son conducteur.
Wilfried de Villers pour Europe 1. Un hommage au gendarme Éric Comines. Il y a 2 ans, ce gendarme de 54 ans était tué par un chauffard après un délit de fuite lors d'un contrôle routier. L'adjudant-chef perdait la vie à Mougins sur les routes des Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, un hommage s'est tenu à la date anniversaire du drame. Stéphane Burgat pour Europe 1.
Entourée de ses 2 enfants, Harmonie Comines, vêtue d'une longue robe noire, ne peut détacher son regard du portrait de son défunt mari. 2 ans après, la douleur reste immense.
Beaucoup de tristesse, toujours bien évidemment, parce que le manque, il est là. Il y a des périodes qui sont plus faciles que d'autres. En l'occurrence, en ce moment, c'est une période qui est quand même plus délicate, parce que c'est un anniversaire. Il y a aussi l'anniversaire de mariage il y a peu de temps. La colère, j'en ai toujours. J'en ai toujours contre l'État. J'en ai toujours contre le meurtrier de mon époux.
Au pupitre face à elle, Sébastien Leroy, le maire de Mandelieu, salue sa force et dénonce le fléau des délits de fuite.
En 2025, il y a eu en France plus de 28 000 refus d'obtempérer, 11% de plus. Toutes les 7 minutes dans notre pays, un individu refuse d'obtempérer aux forces de l'ordre et prend la fuite.
Harmonie Comine acquiesce, elle qui attend la tenue prochaine d'un procès aux assises.
Ouvertement, je vous dirais que j'essaie de me préparer, de m'armer, mais je sais pertinemment qu'au moment venu, il y aura peut-être des accès émotionnels qui seront plus difficiles à gérer que d'autres.
La date n'est pas encore fixée, mais l'homme qui a fauché son mari sera bien jugé pour meurtre par un jury populaire. Mandelieu-Lanapoule, Stéphane Burgat, Europe.
Retour toujours en métropole. Donc, depuis le 1er juin dernier, 48 personnes ont attrapé la légionellose en Savoie. Deux en sont malheureusement mortes. Un restaurant de Chambéry est à l'origine de la diffusion de cette maladie qui s'attaque aux poumons. La source de contamination provient d'une rampe de brumisation tournée directement vers la nourriture d'un buffet.
RRB, il est 11h45.
L'actualité à l'étranger, ces images glaçantes. Une gigantesque coulée de boue aujourd'hui au Népal. Au moins 160 morts dans cette catastrophe causée par un séisme à la frontière avec le Tibet. Le tremblement de terre a engendré un glissement de terrain énorme. Plusieurs centaines de personnes sont aussi portées disparues. Antoine Bienvaux pour Europe 1.
Oui, et les images sont très impressionnantes. Un torrent incontrôlable, des immeubles entiers engloutis, des bus et des voitures balayées comme de vulgaires figurines. L'épaisse boue a tout emporté sur son passage, y compris, vous l'avez dit, selon un dernier bilan, la mort de 160 personnes. Sur place, les premiers secours arrivent au compte-gouttes et le temps presse. Plusieurs centaines de disparus restent toujours ce soir recherchés par les autorités. Pour l'instant, il n'y a pas de victimes françaises, mais les nationaux. La nationalité de 111 de ces disparus reste encore à déterminer. Un bilan déjà très dur et qui devrait encore s'alourdir dans les prochaines heures, selon Rémi Desbois, membre des pompiers de l'urgence internationale.
À partir du moment où il y a de la boue, il n'y a plus d'oxygène. Donc les espaces de survie sont presque inespérés. Les seules personnes qui vont pouvoir être sauvées seront dans la rapidité les personnes que l'on appelle nous des victimes de surface qui seront à 50 cm, 1 mètre sous la terre. Mais l'avenir pour toutes les personnes ensevelies est plus que compromis, quoi.
Et les prochaines heures seront aussi très importantes puisque les installations électriques et l'eau potable ont été largement dégradées, voire complètement détruites. De premières évacuations d'habitants rescapés ont déjà commencé ce soir avec la mobilisation de l'armée népalaise.
Antoine Bienvaux pour Europe 1. Il est 11h48, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une nouvelle pause publicitaire dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Chérie, regarde, le mail de la ville du Mont d'Or. La taxe communale d'aménagement est supprimée pour cette maison à 20 millions.
Hein, mais c'est une blague, ça nous fait économiser combien?
700 000 francs.
Oh, ben c'est bon alors, oh là là, viens, on va direct chez le concessionnaire.
Tu te moques de moi? Avec 700 000 francs, on refait toute la cuisine.
Mais non, il vaut mieux un petit bateau pour aller à la pêche le week-end.
Toi, tu penses vraiment qu'à t'amuser.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal d'actualité locale avec Nicolas Legrand.
Des assises de la FinTech, c'est le rendez-vous économique de la matinée organisée à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. La FINC, OpenNC, la French Tech et l'IUT de Nouvelle-Calédonie ont réuni les acteurs avec en ligne de mire les difficultés que rencontrent les entreprises pour disposer d'outils de paiement innovants. Charlotte Coulson.
Se faire payer par un client lorsqu'on est une entreprise, c'est une manipulation a priori banale, mais qui peut vite devenir un frein pour les sociétés calédoniennes. Elles ne sont en effet pas raccordées au même réseau bancaire que le reste du monde et cela les prive d'outils de paiement innovants, des applications de paiement modernes, des sites marchands comme les marketplaces. Laurent Villemot, le gérant de la société Tecapli, se voit par exemple contraint de refuser des projets de création d'applications.
Dans le cadre de mon activité dans Tecapli, la difficulté que je rencontre, c'est que j'ai des clients qui viennent me voir pour développer des applications et soit le projet ne se fait pas, parce que ça nécessite souvent de créer une structure en métropole, ou soit on peut intégrer les solutions locales, la solution avec la CSB, c'est de faire du paiement par exemple en ligne, mais déjà c'est quand même plus compliqué à intégrer. Et le vrai sujet, souvent, les plateformes, c'est de la rétention de fonds et ensuite de la redistribution. Et ça, c'est pas possible avec la CSB. J'ai des projets en cours qui sont pas achevés, justement, par rapport à cette problématique-là. Et pour le coup, maintenant, les missions que je prends, il n'y a pas souvent l'intégration bancaire. Donc, en fait, moi, je prends plus les missions quand il y a du paiement dedans.
Et quelles solutions peut-on trouver pour lever ces freins? C'est justement l'enjeu de cette rencontre organisée à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Les banques, les entreprises, les partenaires économiques et institutionnels doivent produire une feuille de route pour les 6 prochains mois. Xavier Benoît, président de la FINC, la Fédération des entreprises et des industries de Nouvelle-Calédonie.
Il y a un enjeu, et l'intervention du directeur de l'IOM va être importante, c'est un enjeu sur est-ce qu'on déjà on applique la réglementation correctement en Calédonie, donc est-ce qu'on offre toutes les solutions qui peuvent être offertes en Europe et en France, et est-ce qu'il faut qu'on adapte une partie de la réglementation. Donc on sait qu'effectivement, pour faire intervenir de nouveaux acteurs comme Revolut, il faut qu'ils aient des autorisations, qu'ils prennent des engagements à s'installer en Calédonie, et donc c'est aussi un des enjeux qu'on doit lever. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'État est représenté aujourd'hui, parce que c'est quand même lui qui a la compétence en matière de banque et de monnaie. L'idée, c'est que à la fois dans le plan de relance porté par l'État et dans la feuille de route portée par la nouvelle mandature canadienne, on puisse avoir le plan des solutions qu'on va développer, parce que c'est quelque chose qui va permettre de développer de l'activité en Nouvelle-Calédonie, donc c'est important qu'il soit là aujourd'hui.
Une trentaine de personnes ont participé aux assises de la FinTech avec cette ambition, celle de faire des entreprises calédoniennes des acteurs plus compétitifs sur le marché local et international.
Dans le reste de l'actualité, la campagne de recrutement pour devenir conseiller jeunesse à Nouméa est lancée. Pour la mandature 2027-2028, ce sont 30 jeunes entre 16 et 26 ans qui sont recherchés. Un mandat de 2 ans qui permet de donner la parole aux jeunes et ainsi favoriser leur engagement auprès de la commune. Warren Naroué est 9e adjoint au maire en charge de la jeunesse et de l'animation des quartiers.
Le conseiller local peut proposer des projets, des idées ou une opinion. Il peut aussi initier des projets, donc on va l'accompagner sur l'initiation d'un projet, c'est-à-dire tout ce qui est méthodologie de travail. Et aussi, il peut être sollicité par des œuvres caritatives ou par des institutions sur des projets bien précis. On a pu travailler avec déjà 2 mandatures, qu'on peut tenir en place, et on a par exemple le skatepark de Caméré où on a pu travailler avec les jeunes et avec un conseiller local de la jeunesse et des habitants du quartier, et aussi sur dernièrement l'ouverture du pôle jeunesse où on a pu travailler avec les conseillers locaux de la jeunesse sur la manière d'aborder l'espace au sein du pôle jeunesse où ils pourront se réunir.
Et depuis la création du Conseil local de la jeunesse en 2021, plus d'une centaine de jeunes ont déjà participé au projet. L'objectif, constituer un groupe représentatif de la jeunesse nouméenne. Pour devenir conseiller, les candidats doivent toutefois répondre à plusieurs critères.
Il faut être âgé entre 16 et 26 ans. On peut résider dans la commune, mais on avait aussi des étudiants qui étaient du Mont-d'Or, mais qui passaient une partie de leur temps à l'Université de Nouville. Donc si on a nos activités ou notre vie à Nouméa, ben, il faut être dans la commune en tout cas. Il faut faire partie de notre instance de démocratie participative ou de commission municipale. Et puis après, ne pas être conjoint d'un élu. Et le plus important, vouloir s'engager de manière bénévole, volontaire et à titre individuel.
Le dossier de candidature est à télécharger sur le site internet de la ville de Nouméa ou à retirer directement au pôle jeunesse en centre-ville avant le 30 septembre. Comment le changement climatique touche nos territoires et comment s'adapter localement? C'est l'enjeu du Forum du changement climatique organisé par le SIVM Sud. Au mois de juillet, une première rencontre ciblait les acteurs de Bouloupari, Païta et Thio. Et cette fois, les associations, les maires, les agriculteurs de Lafoy, Farino Moindou et Saraméa sont réunis au parc Souris-Lavergne de Lafoy. Il s'agit dans un premier temps d'identifier les problématiques qui touchent leur bassin de vie. Les travaux doivent être restitués cet après-midi. 11h54, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés. Golden Tribute présente Friday Night Fever, la grande nuit du disco en live, vendredi 4 septembre au On The Beach. Préparez-vous à vivre 3 heures de concert exceptionnel avec 13 musiciens sur scène. Ouverture des portes 18h, début du concert 19h30. Dress code pour ceux qui le souhaitent, sortez vos plus belles tenues disco. Des mineurs à partir de 12 ans sont autorisés sous la responsabilité des parents. Les tarifs, pré-vente 2600 francs, tarifs sur place 3000 francs sous réserve de disponibilité. Les points de vente, Faubourg Blanchot, Campus Système, route du Port des Pointes, Ducos, Fix & Go, Le Centre, Anse Bata, Autodiscount, paiement par chèque ou en espèces uniquement, et bien sûr www.ticket.nc. Golden Tribute Friday Night Fever ou On The Beach.
Paiement par téléphone, gratuit et sécurisé. Munissez-vous de votre carte bancaire et de votre dernière facture. Appelez le 05 36 36, c'est gratuit. Service ouvert de 7h25 à 16h ou 15h le jeudi et le vendredi. Tous les services sur le site EEC.
Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Tout le sport en 3 lettres. RRB.
La fin de votre journal Le Sport avec Nicolas Legrand.
Et on commence avec du football sur la scène européenne avec les barrages de la Ligue des Champions. Après le nul 1 partout à l'aller en Turquie, l'OL s'est incliné 2-1 face au Fenerbahçe aujourd'hui lors du match retour. Les Lyonnais ne retrouveront donc pas la Ligue des Champions cette saison. Ils sont reversés en Ligue Europa. Seul le Paris Saint-Germain, double tenant du titre, Lens et Lille joueront la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et puis les sélections calédoniennes de football ont lancé quant à elles hier leur préparation à la MSG Prime Minister's Cup. Un premier rassemblement à la tribu de la Conception au Mont d'Or a eu lieu pour l'équipe masculine mais aussi pour l'équipe féminine, Léo Fichou.
Oui, ce choix de la Conception n'est pas seulement lié aux contraintes d'organisation. Pour le nouveau sélectionneur, Félix Tagawa, installer les premières réunions au corps d'une tribu, c'est aussi une manière de donner du sens à cette participation calédonienne à la compétition mélanésienne. Écoutez Félix Tagawa qui s'exprime pour la première fois depuis sa nomination.
Conception, faire sentir un peu la MSG Cup et de profiter cette édition-là, de donner des objectifs, les objectifs de la Mélanésian Cup, mais c'était de parler aussi de l'endroit et de Djoubé à Caponé, quoi. Cette année, ben, ça sera Djoubé à Caponé, l'année prochaine, ça sera Diaro, mais ça sera toujours soit le sud, le nord et les îles. Mais on va essayer de faire en sorte que ça tourne, quoi. Païta, c'est le centre technique de la fédération. Du coup, il y a 6 sélections qui partent en même temps. Pour éviter de piétiner, ben, on a dit, ben, écoutez, on ne va pas se marcher dessus, on va chercher. Et on a recherché aussi l'identité de la MSG Cup. C'est comme ça que c'était plus propice pour nous de rentrer à l'intérieur des tribus et rester dans le sud, c'est normal par rapport au siège aussi de la fédération.
Une préparation qui a donc débuté hier soir par une réunion technique dans la maison commune de la tribu. Une dizaine de joueurs et joueuses étaient présents. Préparation qui repose aussi sur le soutien des partenaires. La SLN accompagne officiellement les sélections dans cette campagne avec l'objectif de poursuivre le partenariat sur le long terme, explique Marie Morel, responsable communication de la SLN.
Ça fait quelques années maintenant qu'on n'a pas sponsorisé un gros événement. Là, ça nous tenait à cœur de renouer un petit peu avec le partenariat et l'associatif. Cette compétition, elle défend des valeurs communes que nous avons, le dépassement de soi, la jeunesse, la cohésion. Et ça permet aussi de faire rayonner le territoire au-delà. Donc on se retrouve dans ces valeurs sportives. C'est donc pour ça qu'on a sponsorisé et on sponsorise ces équipes de jeunes talents calédoniens. Donc on espère que c'est un partenariat qui va s'inscrire sur du long terme.
Un soutien qui intervient alors que la fédération doit composer avec des moyens réduits pour cette campagne. Mais sur le terrain, pas question pour Félix Tagawa de partir au Fidji pour faire de la figuration. Le sélectionneur veut profiter de cette première échéance pour installer un groupe et préparer déjà la suite.
Ben, quand tu es compétiteur, oui, si tu dis aux joueurs on va là-bas pour faire de la figuration, ils vont dire mais c'est pas l'objectif. Après, nous, notre objectif, c'est pas de s'arrêter à la MSG Cup. La MSG Cup, au fait, elle prépare les Jeux du Pacifique parce qu'on s'inscrit sur le long terme, mais la représentativité dedans, peut-être ça sera des danses, peut-être ça sera des dialogues, peut-être ça sera une explication culturelle par rapport à l'art mélanésienne et tout ça. Parce que voilà, le foot est intégré maintenant dedans, la culture aussi. Du coup, là, ça a été difficile pour nous parce qu'au niveau terme budgétaire, au départ, on était une délégation de 50. Après, il a fallu réduire par rapport au budget que le gouvernement nous a loué. Mais du coup, ça fait qu'on se retrouve dedans avec 4 staffs et 18 et 36 joueurs à gérer, quoi, et joueuses.
La MSG Prime Minister's Cup se déroulera de la mi-septembre à début octobre au Fidji. Les hommes comme les femmes affronteront les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon et le Vanuatu.
Merci beaucoup Léo Fichou pour ce point complet sur l'actualité sportive. C'est donc la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.